Accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour, à l'heure du réchauffement climatique, faut-il continuer à construire des autoroutes? Le débat agite plusieurs pays européens. Si les Pays-Bas, par exemple, ont décidé mi-avril de stopper tous les projets de nouvelles routes et de voies ferrées pour diminuer la pollution à l'azote, en Allemagne, le ministre libéral des Transports a réussi à s'imposer sur le sujet. 144 projets de construction et de rénovation d'autoroutes sont prévus par le gouvernement actuel. Leur argument, faire baisser la pollution en fluidifiant le trafic. Les militants écolos sont évidemment vent debout contre ce projet et manifestent régulièrement, comme dans la capitale, Berlin, le reportage de Delphine Herbollier.
Une centaine de cyclistes ont envahi un carrefour habituellement bondé dans l'est de Berlin. La manifestation est autorisée et encadrée par la police, la circulation temporairement bloquée. Ces manifestants à vélo protestent contre plusieurs projets d'extension d'autoroute à Berlin. L'autoroute A100 et ses 2x3 voies pourraient bientôt passer par ici. Pour Max, c'est tout le quartier qui va se détériorer.
Tout ce qui se trouve autour de cette autoroute va perdre en qualité de vie. Pour construire une nouvelle autoroute, on coupe des arbres, on détruit des jardins ouvriers. Et à Berlin, on expulse même des clubs, des habitants. Ce sont des 2x2 voies, des 2x3 voies même. Combien de logements pourrait-on construire à la place? Combien de parcs?
Au-delà de ces enjeux locaux, les cyclistes critiquent les projets du ministre fédéral des Transports, Volker Wissing. Quitte à déplaire à ses alliés écologistes, ce libéral a validé 144 nouveaux projets autoroutiers dans tout le pays. Ce sont essentiellement des élargissements et prolongations de sections autoroutières, un non-sens pour Max.
Nous demandons un moratoire sur les projets autoroutiers. Il y a le changement climatique. Cela signifie que les transports doivent réduire leurs émissions. Cela ne marchera pas si on encourage un mode de transport d'un autre temps, celui des transports individuels. Or, le gouvernement va complètement dans le mauvais sens.
Pour ce militant, ce n'est pas en construisant de nouvelles routes que l'Allemagne réussira à abaisser ses émissions de CO2 dans les transports. Ce secteur est d'ailleurs l'un des rares à rater tous ses objectifs climatiques ces dernières années. Un récent rapport de l'organisation OCDE estime même que l'Allemagne échouera à décarboner ses transports si elle ne réagit pas. Du côté du ministère, on balaie ses critiques. Plus d'autoroutes, cela signifie moins d'embouteillages et donc moins de pollution. C'est ce qu'a récemment défendu la libérale Daniela Klutschert lors d'une séance au Parlement fédéral. Elle est la secrétaire d'État en charge du transport.
À Berlin, 30% des émissions proviennent des embouteillages. Un bon réseau routier qui fluidifie la circulation, c'est la garantie de moins d'émissions de CO2 sur ces sections.
Sans surprise, cet argument fait sauter au plafond les opposants aux autoroutes. C'est le cas de Gisèle. Cette Berlinoise fait partie d'une association locale.
Plus d'autoroutes, ça signifie plus de voitures. La circulation ne va pas diminuer, mais elle va augmenter. Ce qui manque, notamment à Berlin, c'est un concept de transport durable. Il ne faut pas construire plus d'autoroutes, mais investir dans les transports en commun.
Face aux opposants des projets autoroutiers et à leurs arguments environnementaux, le ministre des Transports met en avant les enjeux économiques. Pour lui, il faut mettre à jour les infrastructures existantes et vieillissantes. Volker Wissing l'a récemment expliqué à la télévision allemande.
La circulation n'est pas stimulée par les routes, mais elle est stimulée par les besoins de la société. Les biens ne sont pas transportés parce qu'il y a des routes, mais parce que les gens en ont besoin sur le terrain, dans les usines, pour que le pays soit compétitif. Donc il s'agit ici d'une question fondamentale. Comment voulons-nous vivre en Allemagne? Voulons-nous démanteler notre réseau industriel ou avons-nous une vision optimiste de l'avenir? C'est de cela qu'il faut parler, pas de ces choses absurdes que l'on entend actuellement.
Pour appuyer cette théorie, le ministre se base sur de nouvelles projections. D'ici 2051, le trafic routier devrait augmenter de plus de 54% pour le transport de biens et de 7% pour les particuliers. Pour les opposants aux autoroutes, il faudrait justement tout faire pour que ces prévisions ne se réalisent pas. Cela signifie appeler les Allemands à modifier leurs habitudes, deux logiques opposées qui ne semblent pas prêtes à s'entendre.
Le Pays de Galles, dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne, a lui pris une décision inverse. Fini les nouvelles routes, ou presque. Au nom du respect de l'environnement, plusieurs projets routiers ont été stoppés par le gouvernement décentralisé de Cardiff. Sur 59, seules 15 nouvelles routes seront finalement construites. Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres, bonjour.
Bonjour Léa-Lisa.
C'est une décision qui a été prise en début d'année par Cardiff, mais comment le gouvernement travailliste du Pays de Galles en est-il arrivé à cette conclusion ?
Alors c'est le résultat d'un passage en revue de tous les projets routiers et autoroutiers dans la nation de l'ouest de la Grande-Bretagne. Des experts ont passé plus d'un an à étudier les dossiers et ils ont tranché. La plupart de ces projets n'améliorent pas assez les capacités de transport face aux coûts environnementaux. Les nouvelles routes augmenteraient le nombre de véhicules et donc la quantité d'émissions nocives, et elles ne seraient pas propices non plus au développement des transports en commun ou alternatifs comme le vélo. L'un des projets consistait par exemple à percer une nouvelle route dans la région du Flintshire, au nord de la nation, mais la route rouge, comme elle était appelée, menaçait des forêts anciennes et des champs de fleurs sauvages. Il n'y aura donc pas de construction de nouvelles routes, mais plutôt des améliorations pour le réseau existant. Nous ne parviendrons jamais aux zéro émissions si nous n'arrêtons pas de faire les mêmes choses qu'auparavant. C'est ce qu'a déclaré Lee Waters, le secrétaire d'État en charge du climat.
Quelles ont été les réactions à cette décision, Marie ?
L'ONG Friends of the Earth a salué une décision qui est un exemple pour le monde entier, mais les différents partis d'opposition ne sont pas de cet avis. Ils estiment que la région, déjà l'une des plus pauvres de la Grande-Bretagne, n'a pas les moyens de ses ambitions. Andrew Harty-Davis, qui est le chef de la branche galloise du Parti conservateur, estime que décider de ne pas construire des routes parce qu'elles stimuleraient la demande et encourageraient plus de visiteurs et donc plus de dépenses dans l'économie régionale, c'est de la pure folie. Plaid Cymru, le parti nationaliste gallois, regrette que les zones où les projets sont abandonnés sont déjà mal desservies, en termes de transport en commun notamment. Il faut mettre fin à notre dépendance à la voiture, a estimé la députée Dalif Joule. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, il faut une période de transition, dit-elle. Le gouvernement travailliste défend sa décision et ajoute que tous les projets n'auraient de toute façon pas pu voir le jour, car les financements accordés par Londres à la nation décentralisée ont été diminués.
Merci Marie Billon, à bientôt. C'est un ennemi de l'extrême droite italienne auquel on ne s'attendait pas, le Nutri-Score. Cet indicateur européen qui informe sur les qualités nutritionnelles des produits alimentaires suscite une forte opposition du gouvernement d'extrême droite de la botte. Rome craint que le Nutri-Score ne pénalise injustement des produits emblématiques de la gastronomie italienne comme l'huile d'olive, le jambon de Parme ou encore le gorgonzola. Les explications de notre correspondante Cécile Debarge.
Ce sont cinq petites lettres qui pourraient sembler innocentes. Sur un fond de couleur qui va du vert pour le A au rouge pour le E, le Nutri-Score est censé guider les consommateurs dans leurs achats et les aider à savoir quels produits sont plus ou moins gras ou plus ou moins nutritifs. Adopté en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, ce système fait pourtant l'objet d'une âpre bataille en Italie. C'était d'ailleurs un thème de campagne de l'extrême droite lors des élections de l'automne 2022. En cause, le fait que cet indicateur note défavorablement les produits typiques de la gastronomie italienne, comme les pâtes, le parmesan ou l'huile d'olive. La peur, c'est qu'en bout de course, les consommateurs européens boudent les produits italiens et que cela pénalise les géants de l'agroalimentaire du pays. L'Italie propose donc d'utiliser un autre outil, le Nutrinform Battery. Et en attendant d'imposer cet autre système de classification, le pays a déjà demandé à certaines marques de limiter l'usage du Nutri-Score lors de l'étiquetage de leurs produits. Ça a été le cas de l'enseigne Carrefour en août dernier. Dans le sillage de l'Italie, une flopée de pays s'y opposent eux aussi. Parmi eux, Chypre, la Grèce, la République tchèque, la Roumanie ou encore la Hongrie. L'Union européenne est pour l'instant dans l'impasse. Le Nutri-Score devait être étendu à tous les pays en 2022. Il a finalement été écarté et Bruxelles cherche une autre solution. Derrière cette classification, l'enjeu est de mieux sensibiliser à une alimentation saine et équilibrée. Un Européen sur quatre a des problèmes de surpoids, selon l'Organisation mondiale de la santé.
Estamos hablando de la vida de la gente. Hablamos de trabajadores y trabajadoras que se desplazan, que llegan tarde a sus puestos de trabajo porque no...
Elle est la personnalité politique préférée des Espagnols. Yolanda Díaz, l'actuelle ministre du Travail et numéro 3 du gouvernement, vient d'annoncer sa candidature aux législatives de décembre. Mais avant les élections générales, la candidate communiste doit relever un défi de taille: unir la gauche espagnole très divisée. Et pour cela, elle a entamé cette semaine une tournée à travers l'Espagne juste avant les élections municipales et régionales du 28 mai. Son portrait signé Margot Ratezic.
À 51 ans, Yolanda Díaz est la personnalité politique préférée des Espagnols. Fille de syndicaliste, elle a toujours été affiliée à Izquierda Unida, une fédération issue du Parti communiste espagnol. Mais Yolanda Díaz a su séduire au-delà de la gauche radicale, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être très populaire, comme l'explique Oriol Bartomeus, chercheur à l'Institut des sciences politiques et sociales de l'Université de Barcelone.
Sa popularité tient essentiellement au fait qu'elle est non seulement appréciée dans son camp, mais elle séduit aussi la base électorale du Parti Socialiste. Les électeurs du PSOE ont tendance à considérer Yolanda Díaz comme une personnalité proche d'eux. Ils ont une très bonne image d'elle, ce qui n'était pas le cas avec Pablo Iglesias, l'ancien leader de la gauche radicale.
Pablo Iglesias, le cofondateur du parti de gauche radicale Podemos, avait pourtant désigné Yolanda Díaz comme son héritière politique au moment de quitter ses fonctions de numéro 3 du gouvernement espagnol. Mais leur conception de faire de la politique est bien différente, d'après Fernando Vallespín, professeur de sciences politiques à l'Université autonome de Madrid.
Je pense que l'une des caractéristiques de Yolanda Díaz, c'est qu'elle n'est pas radicale. Son discours combine pragmatisme et utopie avec beaucoup d'émotivité. Mais Yolanda Díaz ne tient pas un discours combatif et agressif comme celui qu'a pu avoir Pablo Iglesias pendant son mandat.
La communiste s'est en effet toujours tenue à distance de Podemos. Une trahison pour Pablo Iglesias, en empêchant toute forme d'union entre les deux formations. Fernando Vallespín.
Pour Yolanda Díaz, Podemos est un parti très dépendant de la figure dominante de Pablo Iglesias. Ce qu'elle ne veut donc pas, c'est précisément être instrumentalisée par Pablo Iglesias. Elle veut porter son propre projet. Et je pense que c'est là le cœur du conflit. Tout cela a à voir avec une question de répartition du pouvoir.
Le pouvoir, justement, Yolanda Díaz cherche à le conquérir à travers sa candidature aux élections générales de décembre pour succéder à Pedro Sánchez à la tête du gouvernement. Mais d'ici là, une autre échéance électorale l'attend, les élections municipales et régionales le 28 mai. Yolanda Díaz a entamé une tournée à travers le pays pour afficher son soutien au parti qu'elle espère intégrer à Sumar. Ce scrutin est avant tout pour elle un moyen d'occuper l'espace politique. Oriol Bartomeus.
Ce scrutin est une sorte de primaire avant les élections générales. Il est évident que Yolanda Díaz a un rôle à y jouer, même si Sumar, en tant que tel, ne se présente pas. En revanche, certaines des forces politiques qui composent Sumar sont candidates. C'est pourquoi leur résultat est important pour Yolanda Díaz et pour Sumar.
Yolanda Díaz et son mouvement encore dominés par les deux poids lourds de la vie politique espagnole, le Parti Socialiste et le Parti Populaire à droite de l'échiquier. Mais la nouvelle égérie de la gauche espagnole dispose d'un atout important, son excellent bilan en tant que ministre du Travail, Oriol Bartomeus.
Son sujet de prédilection, c'est le travail, en particulier les questions de négociation collective, les salaires, le chômage. Et dans ce domaine, il faut reconnaître qu'elle a obtenu d'importantes avancées au sein du gouvernement, comme la réforme du marché du travail.
Et contre toute attente, Yolanda Díaz a su mettre d'accord syndicats et patronats sur cette réforme destinée à lutter contre la précarité. Elle a même réussi à arracher le vote du Parlement très polarisé. Preuve de l'efficacité de sa méthode, Sumar additionnait les forces politiques pour parvenir à des victoires.
C'est un écrin de verdure et d'eau turquoise menacée. Le parc national des lacs de Plitvice, le plus ancien et le plus grand parc de Croatie, est aussi l'une des principales destinations touristiques du pays. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, le tourisme et le réchauffement climatique mettent de plus en plus en péril ce sublime ensemble de lacs, cascades et forêts, au point que l'UNESCO a plusieurs fois menacé de placer le parc sur la liste des sites du patrimoine en péril. Le reportage de Louis Seyé.
C'est l'un des sites naturels les plus spectaculaires des reliefs croates, situé à 2 heures de route au sud de Zagreb. Entourés d'immenses forêts, les lacs de Plitvice et leurs innombrables cascades aux eaux cristallines offrent des paysages grandioses et toujours changeants. Cette dynamique hydrogéologique exceptionnelle passionne les scientifiques, comme Maria Ivković, professeur à l'université de Zagreb.
Ce sont des lacs très particuliers. Ils sont alimentés essentiellement par ces chutes d'eau qui s'écoulent à travers un barrage naturel de roches calcaires qui évoluent au fil du temps, les barrières de travertin. Ce système de lacs est en fait très spécifique et il abrite des animaux et des plantes bien particuliers. Toute cette eau qui passe à la fois sous terre et en surface, c'est ce qui permet la présence de différents organismes vivants qui ne peuvent vivre que dans ce type d'habitat. Ici, on trouve donc des animaux et des plantes très spécifiques.
Depuis plus de 15 ans, Maria Ivković et son équipe effectuent chaque mois toute une série de relevés autour de ces 16 lacs aux eaux turquoises. Fragile, cet écosystème lacustre subit de plein fouet les effets du changement climatique, avec des modifications devenues visibles en quelques années seulement. C'est ce que constate la doctorante Valentina Doric, qui étudie des bio-indicateurs plutôt discrets. Des espèces de mouches très sensibles aux perturbations de leur environnement.
En fait, nous avons maintenant des variations très extrêmes des débits d'eau. C'est-à-dire qu'à certaines périodes, le niveau d'eau est bien plus élevé que ce qu'on observait auparavant. Et quand toute cette eau entre brusquement dans le système, elle déplace beaucoup de substrats et elle apporte de nouveaux aliments dans ce système. L'une des conséquences, c'est que les espèces de mouches que j'étudie ont vraiment changé. Celles qui étaient nombreuses et dominantes il y a 14 ans, maintenant, leur nombre a considérablement diminué. Et inversement, d'autres espèces qui étaient très rares auparavant sont aujourd'hui dominantes et très nombreuses.
L'évolution des populations de mouches qu'étudient les scientifiques de Zagreb illustre des changements ressentis par tous dans la région. Les durs hivers pendant lesquels la neige recouvrait les forêts de hêtres et la glace figeait l'eau des lacs appartiennent aujourd'hui au passé.
Avant, il y avait beaucoup de neige. Il était fréquent qu'elle tombe dès le mois d'octobre et qu'elle reste jusqu'au mois de mars, avril et même mai. Mais aujourd'hui, il ne neige plus beaucoup. Un peu en février et mars, et c'est tout. Ici, les anciens racontent que les enfants avaient l'habitude d'embrasser l'herbe quand elle apparaissait la première fois après de longs mois de neige. Mais maintenant, il n'y en a presque plus. Et c'est en fait un problème, parce qu'il y a beaucoup moins d'eau dans le parc et dans le système lacustre à cause de cette absence de neige. Parce que quand la neige fond lentement, elle alimente les eaux souterraines et remplit les réservoirs souterrains. Aujourd'hui, il pleut et c'est fini.
Les lacs de Plitvice souffrent des conséquences du changement climatique, mais ils sont aussi victimes de leur beauté spectaculaire reconnue par l'UNESCO depuis 1979. Pendant la période estivale, pas moins de 10 000 touristes venus du monde entier se pressent chaque jour près des cascades. Résultat, les hôtels et les guesthouses poussent comme des champignons dans les forêts protégées qui entourent les lacs. Enfant de la région et écologue au sein du parc national, Sanya Jalac regrette presque la période du Covid lorsqu'elle a pu observer un loup se baigner dans l'un des lacs et sortir tranquillement par un pont qui est d'habitude emprunté par des centaines de visiteurs.
Quand il fait beau, ici c'est le chaos. Il y a beaucoup de gens, des centaines de personnes. Le tourisme, c'est une chose super pour la population locale car il permet en principe aux habitants de survivre et d'augmenter leurs revenus. Mais en ce qui concerne la protection de la nature, ce n'est pas vraiment la meilleure des solutions. Il faut savoir qu'il y a chaque jour beaucoup de touristes dans le parc national et cela a un impact négatif non seulement sur les barrières de tuf qui sont franchies quotidiennement, mais aussi par leur seule présence car elle entraîne une pollution de l'eau et de l'air.
Suite à la menace de l'UNESCO de retirer les lacs de Plitvice de sa liste du patrimoine mondial, les autorités croates ont introduit un système de réservation obligatoire en 2019. Mais selon les biologistes, les mesures restent insuffisantes pour protéger ce site exceptionnel de la surfréquentation et préserver ces sentinelles du changement climatique.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à toute heure sur notre site internet ou en podcast. Abonnez-vous et sinon, à demain, même heure.